Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons parlé la dernière fois de la prière de Jésus. Et je voudrais, cette fois-ci, essayer de vous faire entrer dans la prière de Jésus. Que Jésus a-t-il dit à son Père? Comment priait-il? Quel était le contenu de sa supplication? Nous commencerons par l'Ancien Testament, puis nous verrons la prière sacerdotale de notre Seigneur dans l'Évangile. Tout d'abord, l'Ancien Testament, les psaumes. La grande prière de l'Église, ce sont les psaumes que les prêtres doivent dire tous, tout entier, les 150 psaumes, chaque semaine, répartis sur les 7 jours de la semaine. Les psaumes ont été inspirés par le Saint-Esprit, donc c'est la parole de Dieu. N'oubliez pas cela, hein, jamais cela. Les psaumes ne sont pas une parole humaine que l'Église aurait reprise à son compte. C'est une parole divine qui a été inspirée à l'auteur sacré. Ce n'est pas le moment d'entrer dans le détail de cette inspiration qu'on étudie en théologie, mais ça n'est pas très important pour vous. Un père de l'Église dit que l'auteur sacré tient la plume, tandis que le Saint-Esprit lui inspire ce qu'il faut dire. Ces psaumes, donc, sont à la fois une prière, souvent ils contiennent des admonitions, c'est-à-dire des avertissements faits au peuple chrétien. Et il faut savoir que les psaumes étaient la grande prière de la synagogue, comme c'est la prière aujourd'hui des chrétiens. Parce que, je vous l'ai déjà dit, mais il est bon d'y revenir, il y a synagogue et synagogue. La synagogue de l'Ancien Testament était toute tournée vers le Christ, et la synagogue aujourd'hui est complètement détournée du Christ quand elle ne le combat pas. Donc il n'y a rien, il n'y a que le nom qui est commun, et que les apparences. Notre Seigneur a prié tout d'abord pour lui-même. Je vais vous lire le psaume 21, au moins de grands extraits. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est notre Seigneur qui parle à son Père, ça c'est un psaume messianique, tout le monde le sait, tout le monde sait que c'est Jésus-Christ qui parle. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? T'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. » Notre Seigneur, je vous l'ai dit, crie le jour parce que sa volonté humaine, son intelligence humaine, se tourne vers la volonté divine et vers les lumières de Dieu. Et justement, pour mettre en accord dans cette épreuve, dans cette, c'est pas une épreuve, dans ce tourment, pour mettre en accord tout ce qui est inférieur en lui avec la sagesse et la volonté de sa divinité, notre Seigneur prie. Il est évident que lorsqu'il pose la question, il sait d'avance quelle est la réponse, mais il sait que cette prière était le moyen, justement, que tout soit dans l'ordre. Que Dieu n'a pas fait en notre Seigneur un homme différent de nous, qui n'aurait pas besoin de prier, de toute façon, une créature intelligente nécessairement exprime sa soumission à Dieu d'une manière ou d'une autre. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Voici une très belle prière de louange de Dieu. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas confondus. Vous avez notre Seigneur qui donne là l'appui de sa prière, et cet appui est une grande louange à Dieu son Père. Il n'est pas comme certains pécheurs qui font des reproches à Dieu. Au contraire, Moi, je ne suis qu'un ver et non un homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Ah, recommande-toi à Yahvé, Yahvé le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. On retrouve ça textuellement dans le Nouveau Testament. C'est une prophétie. Oui, dit notre Seigneur à son Père, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Voici une marque de confiance totale. Il y a chez notre Seigneur, à l'évidence, une volonté d'être complètement dans la dépendance de son Père. Et s'il présente sa peine, sa souffrance, ça n'est ni comme un reproche, ni évidemment, il n'y a pas le moindre soupçon de révolte, c'est l'exposé des épreuves, des difficultés, des tourments, le mot exact c'est tourment, dans lequel Dieu le Père l'a mis, il les lui présente, sachant que son Père ne l'abandonnera pas. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule, etc. Mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. On a là à la fois une prophétie parce que l'écrivain sacré savait d'avance quelle serait la situation du Sauveur sur la croix. Et puis on passe à la deuxième partie de ce psaume. Je publierai ton nom parmi mes frères. Notre Seigneur sait qu'il va être exaucé. Dès maintenant, il dit à Dieu sa soumission. Il dit à Dieu son adoration. Et c'est le rayonnement du Christ. Il promet à son Père qu'il va rayonner. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Alors vous remarquez le mot frère. Nous sommes les frères de Jésus-Christ. Dans la mesure où nous nous comportons en frères, je vais vous l'expliquer, cette prière est la nôtre, cette prière du Christ est en même temps la nôtre. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Notre Seigneur se tourne vers nous, cette fois-ci il se tourne vers nous, pour nous dire, pour nous apprendre à prier. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. Là, il se retourne de nouveau vers son Père. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ça, c'est la Sainte Eucharistie. Non pas la nourriture tangible, mais la Sainte Eucharistie nous rassasie de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu le célébreront, que votre cœur vive à toujours. Et alors, non seulement il y a cette certitude qu'il va prêcher, mais cette certitude que cette prédication étant en union avec Dieu sera efficace. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Ça, c'est une prière pour l'Église. C'est-à-dire que l'énoncé des faits est en même temps une prière. Si nous présentons à quelqu'un des choses qui vont venir, mais qui ne sont pas encore là, prenez un fils qui dit à son père, « Ah là, il y aura une grande maison, là, il y aura une grande usine, là, il y aura un grand cheptel de troupeaux, alors que ça n'est pas encore là. » Pourquoi il l'expose ? Parce qu'il sait que c'est ce que son père veut et que son père va l'aider à accomplir cette volonté qui est pleinement en accord avec la sienne. Passons au psaume 68, qui est encore un psaume de la Passion, un psaume messianique, c'est encore notre Seigneur qui parle. Sauve-moi, ô mon Dieu, car les eaux menacent ma vie. Alors c'est l'eau de la souffrance, c'est très poétique, nous évitons que notre Seigneur n'a jamais été noyé. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir, la boue du péché, la boue de la malice, la boue... C'est intéressant parce qu'on voit la profondeur des souffrances de notre Seigneur. Je suis dans un gouffre, les eaux m'inondent, je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, à crier vers Dieu. Et je voulais en arriver là. Ô mon Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Ah, le Seigneur n'a jamais commis de faute. Eh bien là, il se présente avec nous. Quand il dit mes fautes ne te sont point cachées, il se met à notre place. Il parle en notre nom. Il est comme, si vous voulez, le grand frère qui, le jour de la fête des mères ou de la fête des pères, va exprimer les sentiments de ses frères et ses petits frères et petites sœurs. Notre Seigneur parle en notre nom et il dit des choses qui ne lui conviennent pas personnellement, mais qui lui conviennent étant donné la place qu'il a prise. Et donc il faut vous dire, mes bien chers frères, quand vous allez au confessionnal, quand vous dites vos fautes au prêtre, lorsque dans le confiteor vous suppliez Dieu de vous pardonner, lorsque le soir vous dites l'acte de contrition, il faut vous dire, mon Jésus a déjà prononcé ces paroles-là pour moi, il les a déjà présentées à Dieu son Père. Je ne fais que répéter ce que Jésus a dit pour moi. Aussitôt, Jésus ajoute que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Et ça, il faut y penser lorsque vous entrez au confessionnal. Jésus a exposé l'avenir. Et je vous l'ai dit, quand il expose l'avenir, c'est qu'il le présente à son Père pour que son Père accomplisse sa demande. Et ce psaume continue sur les souffrances de notre Seigneur. Je ne peux pas tout vous lire, hélas. Je voulais vous lire maintenant le psaume 71. Cette fois-ci, Jésus-Christ prie pour l'Église. Ô Dieu, donne tes jugements au roi. Le roi, c'est lui, et ta justice au fils du roi. Les fils du roi, ce sont ceux qui vont le suivre, la hiérarchie de l'Église, les pères de famille également. C'est premièrement le Christ. Le psalmiste voit le Christ roi régnant sur l'Église, fondant l'Église et régnant sur elle. Mais lorsque notre Seigneur dit ce psaume, alors que c'est lui qui est concerné, il entre pleinement dans les vues du Père, et c'est parce que le psaume du psalmiste allait être dit par notre Seigneur Jésus-Christ que justement il prend toute sa valeur. Il jugera ton peuple avec justice. Donc le Christ roi va juger l'Église, va diriger l'Église. Il jugera tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de ta justice. Ça, c'est la hiérarchie. Les montagnes, c'est le grand, le pape, les évêques, les archevêques, les cardinaux. Les collines, c'est le petit, c'est les prêtres, tout simplement. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Vous voyez la permanence de l'Église. Indéfectible. Indéfectible. En ces jours, le juste fleurira, les jours du juste. La paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune, la fin du monde. Il dominera le roi d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Mais le roi, mais il domine pas tout seul, il domine avec son Église. Et donc l'Église dominera avec lui. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lècheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Ça a été cité par l'Église au moment de l'Épiphanie. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n'a point d'aide. Évidemment, nous nous disons, oulala, ça s'applique peut-être pas en nos jours, là. Les rois à genoux devant Dieu, les malheureux secourus. Soit on plie le genou sur la terre, soit on est bien obligé de plier le genou au ciel, en enfer. Quant aux malheureux secourus, c'est pas vrai, ils sont secourus aujourd'hui. Ils sont secourus parce que le but du malheureux, c'est d'aller au ciel, et on a tous les moyens pour aller au ciel. Oh, secourus contre l'opprobre. C'est pour ça que je vous ai lu les premiers psaumes. Notre Seigneur était dans l'opprobre. Nous ne pouvons tout de même pas prétendre, nous, ne pas l'être. Il a été dans les tourments, nous ne pouvons pas prétendre ne pas l'être. Mais, dans les tourments, il a prié pour nous, et donc, nous reprenons sa prière dans les tourments, nous le supplions, nous présentons nos souffrances à Dieu. Et c'est ce que faisait Monseigneur Lefebvre. La prière de Monseigneur Lefebvre, c'était ça. c'est de présenter les tourments de l'Église à Dieu pour que Dieu veille sur elle, sachant qu'il veillerait, sachant que la prière serait exaucée. Vous allez me dire comment je le sais. Je le sais parce que il nous faisait part de ses préoccupations. Ou très rarement, mon Seigneur nous a dit quel était le contenu de sa prière. Très rarement. Une ou deux fois, deux, trois fois, ça l'a sorti. Par contre, nous savons quel était le contenu de ses préoccupations. Or, un saint, dans sa prière, expose ses préoccupations à Dieu. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Voilà. Après la prière pour l'Église, je veux vous lire un psaume d'adoration, de reconnaissance, de contemplation de Dieu. Que vos tabernacles, c'est-à-dire vos demeures, sont aimables, ô Seigneur. Mon âme soupire et languit après les parvis de Yahvé, c'est-à-dire le ciel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouvera une maison, l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Toi, Dieu des armées, sont tes autels. Ô mon roi, mon Dieu, heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, etc., etc. Notre Seigneur présente là notre prière de supplication pour le ciel. Je voudrais vous lire le psaume 50 de la pénitence. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Efface ma transgression, lave-moi complètement de mon iniquité. Il est évident que lorsque notre Seigneur a dit cela, il nous a appris à prier. Il faut le voir comme une bonne maman qui apprend à son enfant à prier. Elle dit les paroles de la prière, elle lui dit répète. Quelquefois, le prêtre fait cela au confessionnal, avec des pénitents qui n'ont pas l'habitude, et il récite l'acte de contrition que le pénitent répète. Il est évident que le prêtre doit le réciter pour lui, cet acte, mais lorsqu'il le dit, là, c'est pas pour lui. Il le dit pour le pénitent. Là encore, lorsque vous recevez les sacrements, notamment au tribunal de la pénitence, dites-vous que notre Seigneur est là. Il vous souffle les paroles, il vous souffle les prières, et il vous dit « répète-la derrière moi, répète-les. Je les ai dites pour toi, si tu les répètes, ta prière sera exaucée. Si tu n'es pas avec moi, ta prière ne sera pas exaucée. Si tu es avec moi, elle sera exaucée. » Et la grande prière de Jésus, c'est la prière sacerdotale dans le Nouveau Testament. La grande prière, c'est la messe, c'est la passion. Mais justement, comme sur la croix, notre Seigneur a voulu nous dévoiler d'avance quelle serait sa prière sur la croix. Et juste avant, le jeudi saint au soir, il nous dit quelle va être sa prière. Il prie tout d'abord pour sa glorification. Il rend compte de son œuvre et il rend un hommage à Dieu en ayant accompli la mission que Dieu lui a donnée. L'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Il rendait compte. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'avais, c'est-à-dire, c'est une manière de parler, la gloire éternelle. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Puis il prie pour ses apôtres et les disciples. C'est pour eux que je prie, c'est la deuxième partie de la prière. Je ne prie pas pour le monde, ah ça c'est important, je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, je suis glorifié en eux. Il rappelle qu'il est Dieu, que tout est commun entre le Père et lui. Il prie parce qu'il est homme, mais tout est commun parce qu'il est Dieu. Je ne suis plus dans le monde, et eux, ils sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie, comme l'Écriture l'annonçait. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. La joie la veille de sa mort. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Toute votre vie, mes bien chers frères, vous serez dans le monde. Notre Seigneur n'a pas demandé que vous échappiez au tourment, il a demandé que vous soyez préservés du péché. Et sa prière était infaillible. Et puis il prie pour l'Église, c'est-à-dire pour nous. Ce n'est pas pour eux, ça c'était les apôtres et les disciples, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Une prière, ça aussi, que nous soyons dans l'unité du Père. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Vous voyez ce que Jésus-Christ demande pour nous? Vous voyez ce qu'il demande pour nous? C'est extraordinaire! Un en Jésus-Christ, un en Dieu, comme Jésus-Christ est un en Dieu, et comme Dieu est un avec Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'amour du Père pour Jésus-Christ, c'est celui avec lequel Dieu nous aime. Père, je veux. Ah, ça c'est... Quand on est en accord avec le bon Dieu, on peut dire je veux. Père, je veux, même vous, hein? Même vous, je veux aller au ciel. Je veux être pardonné. Je veux être fidèle. Je veux accomplir la mission que vous m'avez donnée, ô mon Dieu, parce que votre Fils l'a déjà voulu pour moi et vous l'avez déjà écouté. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Être un avec Dieu, c'est ça la grande réalité. Mais comme nous avons du mal à comprendre, alors il précise, il dit, c'est la gloire, qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Et ça c'est la fin de la prière sacerdotale, et notre Seigneur part pour le jardin des Oliviers. Pensez également à la Sainte Vierge qui a dit les psaumes, et refaites avec la Sainte Vierge l'exercice que je viens de faire avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Méditez bien ces paroles, pensez toujours que notre Seigneur vous prend par la main, vous guide, et surtout a déjà été exaucé en votre nom. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.